Bonsoir à toutes et à tous. Du grain à moudre, c'est aussi tout l'été. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Si on tape « violence » et « police » sur un moteur de recherche bien connu, on est frappé de voir apparaître, à parts égales, des articles sur les violences subies et celles commises par la police. Dans une dialectique un peu macabre, les bavures voisinent les suicides de policiers, les violences sur agents côtoient les tabassages de manifestants. Et l'on comprend vite que les uns répondent aux autres, qu'il y aurait comme un rapport de causalité qui s'est instauré entre les deux. L'actualité récente est venue renforcer ce sentiment. Le 26 juin, l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, rendait publique une série de chiffres et s'alarmait du recours aux armes à feu qui a explosé de 54% entre 2016 et 2017. Le 3 juillet, Aboubacar Fofana, 22 ans, était abattu à Nantes par un CRS qui a d'abord plaidé la légitime défense avant de revenir sur ses déclarations. Le même jour, les sénateurs François Grosdidier et Michel Boutan rendaient un rapport inquiet sur l'état des forces de l'ordre. Ils parlent de crise, de malaise général, de perte de sens, sur fond de montée de la violence et de sentiment de déclassement. La situation aurait donc dérapé depuis 2015 et les attentats qui ont considérablement élevé le niveau de violence ont rendu les pouvoirs publics et politiques encore plus dépendants des forces de l'ordre. Alors police, une illégitime défense ? C'est la question que nous allons poser ce soir dans Du grain à moudre d'été, à écouter en direct sur France Culture et bien entendu quand vous le désirez sur franceculture.fr. Pour en discuter, trois invités autour de la table ce soir. Vanessa Codaccioni, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Paris 8. Vous étiez l'auteur de Justice d'exception, l'État face aux crimes politiques et terroristes au CNRS édition en 2016. Vous étiez venu d'ailleurs parler à ce titre-là, à ce même micro. Mais vous allez publier à la rentrée, toujours chez CNRS édition, un nouvel essai. Ce sera fin août sur la question justement de la légitime défense. En face de vous, Hélène Leuillet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe et psychanalyste. Votre dernier ouvrage paru était « Tu haïras ton prochain comme toi-même, les tentations radicales de la jeunesse » chez Albin Michel. C'était à la rentrée de septembre 2017. Vous aviez publié il y a quelques années de cela, mais vous continuez de suivre les questions de police. « Basse politique, haute police, une approche historique et philosophique de la police » était donc chez Fayard. Et enfin, notre troisième invité est sociologue, Christian Moina. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur du CESDIP, le centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Et à ce titre-là, vous suivez évidemment la police. Je me rends compte que je n'ai même pas noté votre dernier livre. Qu'est-ce que je pourrais annoncer ?
La police contre les citoyens en 2011, mais c'est assez vieux.
C'est assez vieux, mais
peut-être toujours d'actualité.
Mais ça reste toujours d'actualité. Merci Christian Moina de pallier ce manque sur mon conducteur. Alors, je voulais d'abord vous interroger sur cette coïncidence des actualités, en quelque sorte. La question de la violence de la police, évidemment, n'est pas neuve. La question du malaise des policiers n'est pas neuve non plus. Mais on a le sentiment d'avoir assisté, je le disais, ces dernières années, peut-être depuis le 2015, à une sorte de tournant, peut-être même à une montée aux extrêmes des situations d'un côté comme de l'autre. Christian Moina, est-ce qu'on se trompe ou est-ce que c'est une réalité ?
Alors, qui est une accentuation, c'est évident. Et notamment, vous parliez tout à l'heure de malaise policier. La peur des policiers a nettement augmenté depuis notamment les attentats et les attentats qui s'en sont pris directement à des policiers. Il y a eu plusieurs affaires et encore dernièrement une affaire qui est apparemment non liée au terrorisme, mais où des policiers hors service se font attaquer, agresser. Donc, il y a une peur. Mais pour tout ce qui est violence policière, ça fait des années qu'on en parle. Mais hors de la police ou à l'intérieur de la police, mais jamais on en parle. Enfin, on pose politiquement ce problème-là. C'est souvent un sujet tabou, caché. Les policiers en parlent entre eux, peuvent dénoncer certains collègues, mais hésitent à le porter sur la place publique. Donc, on est un peu prisonnier de cette dialectique, les pro-police versus les anti-police, hein, et ça évite le débat. Et donc, on est un peu coincé.
Juste pour préciser, Christian Moina, puisque j'ai moi-même fait le lien entre les deux, vous venez de le faire aussi. Et est-ce qu'on peut faire un lien comme ça entre les violences policières, c'est-à-dire les violences commises par la police, et les violences sur les policiers, les violences subies par la police?
Alors, après, il faudrait voir affaire par affaire, mais ce qui est très clair, c'est qu'on a des phénomènes de cercle vicieux quand on regarde sur le temps moyen ou le temps long, à savoir, bon, l'exemple de Nantes, c'est le dernier, mais c'est un nouvel exemple de choses qu'on voit depuis les années 80 au moins, c'est-à-dire des policiers, un contrôle qui se passe mal. je rentrerai pas sur les faits.
Qu'on connaît pas, de toute façon, un
jeune homme souvent qui meurt, et puis violence de la part des jeunes qui viennent exprimer leur ras-le-bol par rapport à d'autres contrôles policiers et d'autres violences policières, violences verbales ou violences physiques. Donc on a toujours ces phénomènes de cercle vicieux.
Un jeune homme souvent qui meurt, souvent un jeune homme noir, d'ailleurs on y reviendra également parce que c'est une question importante. Mais Hélène Leuillet, je voulais vous entendre peut-être sur cette première question finalement du lien entre les deux et de la montée en puissance en quelque sorte de cette violence.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue qui vient de s'exprimer. Effectivement, je crois qu'il faut se méfier de la pensée en miroir. De violence subie, violence agie. Non, ce n'est effectivement, comme vous le suggériez à l'instant, pas à mettre sur le même plan. L'effet de cette pensée miroir, je suis tout à fait d'accord, et que même chez les intellectuels, je le vérifie souvent, chez les sociologues ou chez les philosophes, je connais, on est pour ou contre. Soit on est flicophobe et alors on a tout un discours contre la police en soi, qui dispense d'ailleurs de regarder au cas par cas ce qui se passe. Soit on est pour la police, on la soutient, on dit il faut dans une société une instance qui est la police, et de la même manière, on est dispensé d'aller voir dans le détail, au cas par cas, ce qui s'est passé. Et si on veut aller au cas par cas, effectivement, d'abord, on peut dire que violence subie par la police, violence de la police ne sont pas à mettre sur le même plan pour deux raisons. D'abord, parce qu'effectivement, quand on entre dans la police, on sait qu'on va subir des violences. Et si on n'excuse pas les violences contre la police, je les excuse pas, on n'excuse pas non plus les violences de la police. Ça, c'est pas un miroir, c'est une question de cohérence. La violence et la force, ce n'est pas la même chose. La police détient l'usage légitime de la force, c'est l'instance tierce dans la société, mais la violence, c'est autre chose. Donc la police n'a pas à faire usage de la violence, de la force, oui.
Pourtant, Vanessa Codaccioni, on cite souvent cette phrase de Max Weber sur la violence légitime. L'État, c'est celui qui détient la violence légitime. Donc, on parle bien de violence et de légitimité. Oui. Et de là découle aussi peut-être la question de la légitime défense. Mais ça, on verra ça plus tard. Mais voilà, pour terminer ce tour de table, justement, sur cet effet miroir, pour reprendre l'expression d'Hélène Leuillet, entre les différentes formes de violence, celles qui sont agies et celles qui sont subies par la police.
Ouais, je dirais deux choses. La première, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord avec Christian Moana, c'est-à-dire que aux violences policières répondent d'autres types de violences. Aux violences policières vont répondre des violences manifestantes ou des violences qu'on appelle révoltes urbaines, hein, pour dénoncer l'injustice et l'usage illégitime des armes par la police. Ça, c'est la première chose. Ce qui explique aussi cette forme de radicalisation peut-être un peu réciproque, c'est aussi le contexte, on y reviendra peut-être, de l'antiterrorisme, qui a donné de plus en plus de prérogatives à la police. Et là, je crois qu'il y a quelque chose, il y a un fil à tirer sur en quoi la manière dont l'antiterrorisme est pensé et fait aujourd'hui nourrit la violence policière, avec un discours guerrier, avec une militarisation de la police, avec des injonctions peut-être qui mettent plus de pression. Et je finirai en disant que sur la question de la mise en équivalence crime policier, violence commise contre les policiers, il y a un lien que je vois, c'est que ça soit des crimes policiers ou des crimes de policiers, chaque fois, l'institution policière va être sur la défensive et va réagir en dénonçant l'arbitraire, l'injustice dont elle est victime.
L'institution policière, mais aussi l'institution politique, c'est vrai qu'on a vu ces derniers temps les ministres de l'Intérieur successifs ou Premier ministre. On se souvient de Manuel Valls, par exemple, disant « je ne laisserai pas critiquer la police », c'était à l'Assemblée nationale. Donc évidemment, on peut s'interroger sur l'effet que peut avoir une telle déclaration sur le corps des policiers tout entier. Mais avant d'en arriver là, Christian Moina, et de revenir aussi sur les suites finalement de 2015, des attentats et de ce que ça a pu provoquer dans le rapport entre la population et la police d'un côté, et au sein même de la police de l'autre. Hélène Leuillet a parlé d'une sorte de débat un peu piégé. Il faut absolument être pour ou contre la police. C'est quelque chose que vous qui travaillez au quotidien sur cette question, c'est quelque chose que vous avez pu constater également?
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs parfois plus difficile de travailler avec certains collègues, certains intellectuels, pour reprendre les catégories évoquées tout à l'heure, qu'avec certains policiers. Parce que quand on parle aux policiers, un groupe de policiers, par exemple, eux-mêmes reconnaissent, quand on est un peu intégrés dans le cénacle, en quelque sorte, on se rend bien compte que tous les policiers ne pensent pas la même chose. Certains peuvent être très critiques par rapport aux agissements de leurs collègues. Ils dénoncent les insultes, ils dénoncent certains qui sont plus violents et que eux-mêmes tolèrent mal. Mais il y a une espèce d'omerta dans la police. On ne peut pas en parler. Alors vis-à-vis de l'extérieur, c'est le tabou total. Il y a le corporatisme joue à plein parce que on ne trahit pas ce corps-là. Et en interne, c'est très difficile pour un jeune policier de critiquer dans des policiers plus anciens. C'est difficile de remettre en cause le recours à la violence physique parce que le jeune policier, par exemple, peut se dire qu'à certains moments, il peut avoir besoin du soutien des autres. Donc on est dans une espèce de complicité obligée avec une hiérarchie, avec des responsables politiques qui ne veulent pas rentrer dans ce sujet-là, contrairement à l'Angleterre ou d'autres pays où la question a été posée de manière plus claire, jusqu'où peut aller la police. On reparlera peut-être des codes de déontologie, mais le code de déontologie a plutôt été instrumentalisé par le politique et par la haute hiérarchie policière pour se défendre plutôt que pour agir concrètement sur ces violences.
Hélène Le Yeh, sur ce hiatus finalement que cite Christian Moinat à l'instant, entre ce qu'on peut obtenir finalement comme parole quand on parle directement aux policiers et la parole public qui est porté par des instances, par exemple, je pense au préfet Éric Morvan récemment encore, qui disait que les policiers ont été mis à rude épreuve ces dernières années et que l'esprit du 11 janvier 2015 s'est vite estompé. Les policiers ont retrouvé un quotidien plus rude, les outrages à répétition, les violences insupportables, les guet-apens, les mises en cause injustes. C'était le propos du préfet, du directeur général de la police nationale, pardon, depuis 2017, le préfet Éric Morvan.
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec Christian Moinat, c'est que, il faut dire, Le corporatisme fait beaucoup de mal dans toute la société, mais il fait beaucoup de mal psychiquement à chaque individu et particulièrement dans la police. Parce que, bien entendu qu'on a besoin de soutien, mais pas forcément d'abord du soutien de tous, de quelques-uns, c'est ça qui compte. Et on ne doit jamais pouvoir abolir les pouvoirs de la critique. C'est-à-dire que il faut pouvoir non seulement critiquer des collègues, il faut pouvoir se critiquer soi-même dans tous les métiers. Enfin, le corporatisme est nuisible chez les enseignants, hein, il est nuisible chez les postiers, il est nuisible partout, hein, chez les journalistes aussi bien. Enfin, faut toujours pouvoir être dans la division avec soi-même et pouvoir redonner au malaise un sens positif. Là, on est dans les grands discours de la société et on voit que la police, elle est à une place où quand le discours aujourd'hui ne laisse plus aucune place au malaise, à la négation, vous voyez, ah là là, les policiers sont en but à des attaques. Je suis désolée, quand on devient policier, il y a une fascination aussi pour le danger. On vient pas seulement pour le confort et même jadis, on venait pas seulement pour la retraite. Alors bien entendu, on entre aussi parfois par le hasard et ensuite on devient policier dans la rue, hein, comme on dit, on le devient sur le tas et là on peut devenir corporatiste, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, la police, c'est aussi une place impossible dans la société. Victor Hugo, si vous me permettez, le disait bien. Hein, quand, dans Les Misérables, il parle de Javert, il dit « Javert est né en prison, hein, d'une femme tireuse de cartes et de son mari qui était aux galères. Il a compris très vite que sa place, elle serait hors de la société et qu'il y a deux catégories de personnes qui sont en dehors de la société. Ceux qui l'attaquent et ceux qui la gardent. Le malaise de la police, il faut que les jeunes qui entrent dans la police le sachent. Il y aura d'autres bénéfices pour eux, hein, de leur travail. Forcément, c'est une place de malaise. Mais le malaise a un sens. Le malaise est fructueux. On l'oublie aujourd'hui, hein, dans nos pensées positives. Le négatif est fructueux.
Alors, pour terminer sur cette question, la difficulté aussi d'avoir une parole, notamment venant de l'institution policière, qui a un petit peu de recul, ou en tout cas qui soit, comment dire, mesurée. Je dois signaler quand même qu'on avait sollicité, par exemple, les représentants de l'IGPN à ce micro, et que bon, on n'a pas eu de réponse positive. Et on voit que c'est toujours difficile quand on organise des émissions comme celle-ci, d'opposer peut-être des régimes de parole qui sont très différents, qui sont ceux, par exemple, des syndicats de police qui vont être dans ce corporatisme que vous venez de citer, Hélène Le Yeh, les représentants des victimes qui, eux, sont dans une autre forme de discours et qu'on a toujours l'impression d'opposer un petit peu deux sensibilités. Enfin, voilà, c'est toujours difficile d'avoir des discours un peu mesurés sur la question et c'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir un sociologue, une philosophe et une politiste et on espère qu'on va pouvoir en tirer quelque chose. Mais ça a déjà commencé. Alors, Vanessa Codaccioni, peut-être qu'il faut vous le souligner. suggériez tout à l'heure parler des conséquences justement des attentats, de l'état d'urgence, puisqu'on dit beaucoup que depuis 2015, d'un côté, beaucoup de stress a reposé sur la police, le stress du danger, ça a été dit par Christian Moinat, le stress aussi des heures supplémentaires qui augmentent. J'ai pu lire qu'on était passé de 7 à 19% depuis 2015, donc on voit qu'il y a véritablement une pression qui s'exerce sur la police, et donc il y a nécessairement quelque chose qui a changé.
Oui, ce qui a changé à mon avis, c'est la place qu'on a accordée à la police dans le système répressif. La police a toujours eu une importance centrale, évidemment, dans le système répressif.
C'est une tautologie de le dire, oui.
Tout à fait, puisqu'elle est chargée d'arrêter les suspects, etc., prendre les plaintes, etc. Mais il me semble que dans l'antiterrorisme, la police a pris une autre place, puisqu'elle me semble que l'antiterrorisme aujourd'hui, étant un antiterrorisme préventif, a donné de plus en plus de prérogatives à la police. Et ce que j'avais essayé de monter dans mes précédents travaux, c'est qu'on est passé d'une justice judiciaire visant les ennemis intérieurs, du juge à une justice d'exception policière, où on va donner de plus en plus de prérogatives d'exception à la police. Et deux illustrations de ça, ce sont les lois qui ont été votées en 2016 et en 2017 sur l'utilisation des armes, qui montrent ces prérogatives accrues. On reviendra certainement là-dessus, mais je voulais déjà les signaler. Ce qui montre qu'en réalité, on fait reposer quasiment à la police le gros du travail de l'antiterrorisme. Donc il y a une forme d'injonction et de pression sur la police, sauf que, en contrepartie, même s'il y a eu certaines personnes qui ont applaudi la police a toujours une image assez dévalorisée dans la société, et le lien policier, peut-être que Christian pourra relativiser ce que je suis en train de dire, mais la population n'a jamais eu ultra confiance en la police, notamment parce que celle-ci ne permet pas d'arrêter tout le monde, d'empêcher les vols, d'empêcher les cambriolages, etc. Donc il y a un hiatus entre de fortes pressions et puis un métier plutôt déconsidéré. Mais ce qui me semble important de dire, c'est que je crois que l'antiterrorisme est important parce qu'il est pensé comme une guerre. Et donc, s'il est pensé comme une guerre, la police doit aussi devenir guerrière. Et la police doit aussi devenir militaire. Et on observe une forme de militarisation de la police qui fait que les policiers vont être de plus en plus armés, avec des discours très guerriers. Et en plus de ça, on va leur donner la possibilité d'utiliser plus facilement leurs armes comme les militaires. Et là, il y a quelque chose qui se joue qui me semble très dangereux et très important.
Alors, on reviendra sur cette question de la militarisation de la police, mais répondez, si vous voulez bien, Christian Moinat, d'abord à cette question du rapport police-population, au soutien, évidemment, de ce que vient de dire Vanessa Codaccioni. On peut citer le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a signalé avoir été saisi plus de 1200 fois en 2016, par exemple, contre seulement 910 en 2015, dans un rapport qu'il concluait en disant que l'état d'urgence instauré au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 avait créé de sérieux troubles, c'était le terme qu'il employait.
Oui, je crois quand même qu'il faut dire que quand on regarde les sondages, d'ailleurs c'est vrai à peu près dans toutes les sociétés occidentales, on a à peu près 70 à 80% de la population qui déclare avoir confiance dans la police. Ah, ouais. Mais ce qui est important, c'est que...
C'est mieux pour les journalistes.
Oui, mais c'est... certainement, mais bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, c'est très tranché selon les catégories de population. Les jeunes, eux, ne sont pas du tout dans les 80%. Ils sont également si on appartient ou non à des minorités dites minorités ethniques visibles. Enfin bon, ou si on habite dans les quartiers difficiles, si on est un homme ou une femme, etc. Donc tous ces critères-là nous montrent que il y a une minorité en fait qui est particulièrement sous les feux de ce qui vient d'être décrit. C'est-à-dire que non seulement on a renforcement de l'armement, des lois, de toutes les possibilités de pression, mais ça s'adresse finalement à une minorité de la population, les 20%, qui vont être a priori considérés comme étant les délinquants potentiels ou les terroristes potentiels. Les jeunes, les jeunes étudiants de gauche qui manifestent, les jeunes musulmans qui habitent tel ou tel quartier, etc. Donc on a très clairement un ciblage, les anglo-saxons parlent de labelling, de parties de la population sur laquelle on va mettre une pression très forte. Alors même qu'on sait que parmi les terroristes, on peut avoir des profils très différents, tant en termes d'âge que de sexe ou de même d'origine. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette idée d'une police qui, malgré les augmentations de salaire, malgré tous les pouvoirs, alors, et pourquoi dans un malaise? Parce que le sens de son action, elle se rend bien compte qu'elle n'arrive pas à répondre aux vrais défis de la société, et donc elle est plutôt à créer son ennemi et à le combattre, tout en sentant bien que les réponses ne sont pas adapté au défi.
Hélène Leuillet, je rappelle que vous êtes philosophe, psychanalyste, que vous avez publié il y a quelques mois, Tu haïras ton prochain comme toi-même, Les tentations radicales de la jeunesse. Et évidemment, ça vous amène à réagir à ce que vient de dire Christian Moinard.
Oui, c'est-à-dire qu'on est effectivement, si on s'intéresse au discours qui existe dans la société, de toute façon, à l'illustration de cette levée de refoulement sur la haine dont je parlais effectivement dans ce dernier livre. Et même si la haine, elle est pas si grande, la haine de la police, ni l'héroïsation, il y a toujours eu les deux, à la fois fascination et en même temps, un soutien assez large, mais pas total. C'est-à-dire quand on regarde l'histoire de la police, quand même, on voit qu'il y a eu une époque où les discours circulaient mieux. Enfin, ça, parce que voilà, la haine, on oppose sur la haine et l'amour, ça rien à voir. En vérité, la haine, elle s'oppose au discours. C'est la haine, c'est ce qui empêche les discours de circuler. Et là, effectivement, on voit très bien ce que la haine, elle incite au passage à l'acte violent. Alors, j'entends bien ce que vous dites sur la militarisation, mais je suis pas sûre qu'il n'y ait que ça. Je veux dire, dès lors qu'il y a une levée de refoulement sur la haine, il y a des passages à l'acte qui sont beaucoup plus faciles. Et effectivement, il est sûr que dans la partie de la société qui soutient la police, elle peut jamais être totale, c'est vrai. Il peut y avoir des âges, etc. Bon, peu importe. On peut pas rêver de 99,9%. Il faut que, tout le monde le sache. Pour les enseignants et les journalistes, c'est pareil. Et néanmoins, il faut qu'il y ait de la connaissance qui se diffuse, à la fois que la société connaissent sa police, sachent ce que c'est que la police, c'est d'abord un tiers, et qu'en revanche la police connaisse aussi la société, c'est son rôle.
Alors Christian Moinard, ça m'amène à vous poser une question, est-ce que les choses peuvent changer avec l'arrivée de cette police du quotidien, police de proximité, on sait qu'il y a... Ça...
C'est une vaste question, parce que depuis la fin de la police de proximité en 2002, on a tous les gouvernements successifs, y compris plusieurs ministres de Nicolas Sarkozy, ont essayé de relancer une forme de police de proximité, mais à chaque fois en se disant, il faut qu'on relance, faut qu'on effectue un rapprochement avec la population, mais il faut pas aller trop loin, il faut toujours être dans le rapport de force, etc. Donc une espèce d'injonction contradictoire qu'on continue à vivre aujourd'hui. Et il me semble que la police de sécurité du quotidien est un petit peu dans cette filiation des zones de sécurité prioritaires et toutes ces réformes qu'on a eues différentes, les brigades de sécurité de quartier. Enfin bref, on a plein d'acronymes, je vous les passe. Mais donc cette difficulté, la difficulté, c'est de se poser la question... En quoi la police est-elle légitime aux yeux des personnes qu'elle est censée servir ? Et j'insiste sur le mot servir, parce que, par exemple, aux États-Unis, dans un certain nombre de villes, vous avez écrit sur les voitures de police « We serve and protect ». Mais il y a cette idée de service au public. Or, dans les politiques menées actuellement et les incitations que les politiques donnent aux policiers, il y a cette idée de « on va contrôler les foules, on va contrôler les gens ». On n'est jamais dans l'idée de service au public. Alors même que les autres services publics ont effectué cette mutation de l'administré vers le citoyen usager. La police ne l'a pas fait.
Mais Vanessa Candaccioni, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Ça aggrave ce que vient de dire Christian Moinard avec cette militarisation de l'espace public, cette banalisation finalement de la présence de la violence policière dans l'espace public. Alors, je dois dire ici qu'on n'a pas encore fait la distinction, peut-être qu'il faudrait la faire maintenant, entre, on va dire, la police du quotidien, l'action de la police du quotidien, et la question du maintien de l'ordre, par exemple, lors de manifestations. Parce que quand on pense aux violences policières, c'est aussi à ça qu'on pense, Vanessa.
Oui, le maintien de l'ordre, c'est effectivement une technique policière qui est censée gérer une foule, gérer une manifestation. Et il y a des travaux très intéressants qui ont été menés dernièrement, notamment par des membres du CESDIP, justement, Fabien Jobard, Olivier Gauthier, Jérémy Gauthier, Olivier Filial, qui ont montré qu'en France, le maintien de l'ordre, contrairement à d'autres pays européens, est dur. Il n'y a pas de désescalade, mais il se fait de plus en plus dur avec les flashballs, avec des techniques de nasse, avec une volonté d'aller au corps à corps, avec une volonté un peu de provoquer même parfois. Et donc on s'aperçoit qu'en France, même le maintien de l'ordre est dur, violent, difficile. Et ça, inutile de dire là encore qu'il y a une histoire. Ça a toujours été le cas. Et on a toujours eu des violences policières contre des manifestations. Mais sauf que, contrairement aux autres pays européens, il n'y a pas de réflexion sur comment empêcher cette escalade.
Alors le CESDIP, c'est votre centre de recherche, enfin votre centre, vous êtes le directeur du CESDIP, pardon, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire, Christian Moana, et donc vous connaissez évidemment ce travail qui vient d'être cité par Vanessa Codaccioni.
Oui, mais enfin, alors là, de ce point de vue-là, du point de vue du maintien de l'ordre, on a même une aggravation, puisqu'il y avait des habitudes de négociation, et alors ça, enfin, notamment avec les syndicats, les membres de l'UNEF négociaient avec les policiers quand il y avait des manifestations, les services d'ordre de la CGT ou autres avaient l'habitude de co-gérer en quelque sorte les manifestations avec les policiers. On voit que, à la fois du fait de l'affaiblissement des structures syndicales et de l'encadrement des manifestations, d'un côté, mais aussi de cette volonté des policiers de durcir, ça correspond aussi à une incompréhension. On a Charlie et on a la COP21 quelques temps après, et la COP21, on interdit les manifestations. Et après, les policiers, le gouvernement, à l'époque de Manuel Valls, ne comprend pas comment on peut manifester alors qu'on est sous l'état d'urgence. Autrement dit, il y a une tentative de gouvernement par la peur qui n'a pas eu le succès escompté par le gouvernement de l'époque, puisqu'on a eu Nuit debout, on a eu des manifestations. Et donc, ça donne une espèce d'injonction contradictoire aux policiers, où on leur dit à la fois, il faut autoriser les manifestations, mais en même temps, ces manifestations, dans le contexte terroriste, elles ne devraient pas avoir lieu.
Donc, il faut disperser le plus rapidement possible.
Et puis, on dit aux policiers, débrouillez-vous avec ça, d'où les dérapages, parce que la police, pour fonctionner, en structure de maintien de l'ordre, a besoin d'être très encadré. Quand on donne des ordres contradictoires, il n'y a rien de pire et ça amène les dérapages, les peurs, les bavures, le policier tout seul qui se sent encerclé, qui va lancer une grenade, n'importe comment. Voilà, donc on est dans ce problème-là de définition claire des missions.
Avec l'émergence aussi d'une nouvelle forme de radicalité, en tout cas, qu'on n'avait pas vu apparaître depuis les sommets de Gênes, par exemple, sur la contestation contre l'EMC, les sommets de Gênes, il y a quelques années. Ce sont ces fameux Black Blocs dont on a beaucoup parlé le 1er mai dernier. On a aussi beaucoup parlé à cette occasion-là de l'évolution des doctrines policières, l'évolution de la stratégie, de dire on ne va plus aller trop à la confrontation, on va les laisser faire d'une certaine façon. Hélène Leuillet, est-ce que cette injonction contradictoire que souligne Christian Moana, vous la constatez également?
Oui, notre grand maître à tous, je crois, Jean-Paul Brodeur, hélas décédé, avait cette image du chèque en gris. Je veux dire que le mandat policier, particulièrement dans le maintien de l'ordre, dans toutes les autres activités de police, mais particulièrement dans le maintien de l'ordre, c'est un chèque en gris. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit. Je sais que c'est une idée qui est parfois un peu caricaturée à tort. Je crois que c'est vraiment une idée très forte, c'est-à-dire que la moindre contradiction, le moindre caractère un peu allusif peut être le signal du déclenchement de la violence. Et contre ça, alors il n'y a pas forcément toujours eu des violences policières. Évidemment, on a célébré 68, on a aussi célébré le préfet Grimaud. Il n'y a pas eu de mort en 68, oui, mais il a dit on ne tape pas. Oui. On ne tape pas.
Les directives étaient claires.
Les directives étaient extrêmement claires. Là, vraiment.
Il y a eu des violences policières quand même.
Et il y a eu des violences policières, mais qui ont été prises aussi immédiatement. Je veux dire, ça aurait été normalement bien pire avec quelqu'un d'autre que lui. Ça met au jour quand même cette fonction de la rue dans la police, même dans le renseignement, il faut en passer par la rue. La rue, c'est essentiel dans la police. Et il y a quand même aussi une tradition républicaine de la police qu'hélas, dans le pays de la République, on est en train d'oublier. C'était quand même un grand discours républicain que le discours républicain sur la police qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir des dérapages, mais qui quand même les jugule à la base, et les limites. Lépine était le préfet de la rue. On ne tape pas, ou on tape la discute. Même Grimaud allait dans les manifestations pour parler. On a oublié ça.
Vanessa Codaccioni, sur cette dimension d'une police républicaine.
Oui, alors la police, dans le maintien de l'ordre notamment, elle était là pour éviter les bavures militaires, puisqu'il y a eu des grands massacres de militaires, notamment au début du XXe siècle, à Fourmies notamment. Mais la violence policière, elle a toujours existé. Mais là où ce que vous avez dit est important, c'est qu'il faut regarder aussi qui donne les injonctions et qui dirige. Et effectivement, vous avez cité le préfet Grimaud, mais on pourrait citer aussi l'inverse. Enfin, dans un sens un peu plus radical, le préfet Papon. Et on ne comprend rien au massacre du 17 octobre 61, par exemple, au 8 février 62 de Charonne, si on ne regarde pas la personnalité de Maurice Papon, comment il a été formé, à quelle technique, son parcours, et aussi... il excitait la police. Et donc, quand on parle de la police, il faut aussi regarder quels sont les ordres, comment les ordres sont donnés, par qui, par quel parcours. Et donc, ça revient aussi à regarder les trajectoires des acteurs.
France Culture, du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
France Culture, il est 18h45, vous écoutez donc le Grand Moudre d'été et on discute ce soir de cette question police, une illégitime défense. On en parle avec Vanessa Codaccioni, qu'on vient d'entendre, qui est politiste, avec Hélène Leuillet, philosophe et psychanalyste, et avec Christian Moana, qui est sociologue, directeur du Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales, le CESDIP. Alors, peut-être dans les quelques minutes qui nous restent, on pourrait passer un petit peu aussi en revue, ça a déjà commencé à être fait, mais les raisons qu'on donne en règle générale à cette augmentation de la violence. On a parlé des suites des attentats, on vient de parler finalement de ce qui est peut-être le nerf de la guerre, la question politique et des ordres qui sont donnés, du cadre politique dans lequel une police agit ou non. Mais il y a d'autres questions qui peuvent être abordées, qui sont tout autant politiques. Par exemple, Christian Moina, récemment, on s'est inquiété du nombre de policiers qui votaient en faveur du Front National. On a parlé des 50%, c'était une étude de Luc Rouban, qui est un politologue au CVPOF, et qui avait analysé ce vote des fonctionnaires. Il avait montré que 50% des votants, qu'il y avait 50% de votants en faveur du FN dans la police. Et donc, évidemment, quand on met ça en lien avec les bavures, et je le disais tout à l'heure, des bavures qui touchent souvent, le plus souvent, des jeunes hommes noirs ou arabes, c'est en tout cas ce qui s'est passé ces derniers années, c'était surtout des jeunes hommes noir, et bien évidemment, on additionne 1 + 1 et ça fait 2.
Sur l'étude, on pourra en parler longtemps, mais je pense qu'il ne faut pas non plus forcément mélanger le type de vote et le comportement. On peut avoir des policiers qui vont voter, par exemple, à l'extrême droite, mais qui seront, dans leur exercice professionnel, respectueux d'un certain nombre de règles. Je pense qu'il faut éviter les raccourcis rapides. Il me semble que je ne sais pas si on peut parler d'augmentation, comme vous le dites, des violences des deux côtés. Et on est toujours à un certain niveau de violence. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a une augmentation de la sensibilité des policiers aux violences qui peuvent les toucher. On le voit d'ailleurs dans d'autres professions. On pourrait parler du bâtiment ou d'autres où il y avait un rapport au danger, un rapport au risque, un rapport à certaines formes de violence qui étaient assez tolérées. La même chose dans la police. Or là, on a des policiers, c'est un peu l'hypothèse de la civilisation des mœurs, de policiers qui sont de plus en plus sensibles. On va les insulter, on va leur cracher dessus, on va lancer un caillou. On a des policiers qui viennent de moins en moins de milieux où, jeunes, ils ont été confrontés à la violence. Je pense que tous ces points sont importants. On pourrait les développer chacun, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Mais ça sera important. Enfin, c'est important de montrer qu'on a beaucoup de policiers qui ont peur. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Avant, ça se cachait. La peur du policier restait quelque chose qui était renfermé. Maintenant, il y a des psychologues dans la police et on leur confie des choses. Et quand vous regardez les manifestations de policiers en 2016, ils disent « on veut être aimé, on en a assez d'avoir peur ». Donc, ils reconnaissent qu'ils ont peur, ce qui est en même temps, en termes de stratégie, quand on est censé faire peur pour maintenir l'ordre, pose problème. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte.
Vanessa Codaccioni, je ne sais pas si vous voulez réagir à ce que vient de dire Christian Moina, mais il vient de parler de ces manifestations de 2016, des manifestations au cours desquelles les policiers demandaient notamment cette fameuse question de la présomption de légitime défense. Mmh. C'était une façon de dire voilà, il faut arrêter de nous soupçonner, il faut arrêter de se méfier de nous, qu'on soit présumé finalement coupable. Quand il se passe quelque chose, et peut-être inverser un petit peu les choses et la charge de la preuve en quelque sorte.
Alors, par rapport à ce que vous avez, votre question sur le Front National et ce qui vient d'être dit, les policiers n'ont pas attendu de voter Front National pour tuer des jeunes racisés issus des quartiers populaires. Il y a énormément d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens qui ont été tués dans les années 70 et 80. Ils n'ont pas attendu. Même si je suis persuadée que les caractéristiques sociales de l'agent qui va tirer, sont très importantes à prendre en compte, et peut-être ses opinions politiques aussi, mais ça, c'est un autre débat. Sur la question des manifestations policières et de leur intolérance au fait que l'un d'entre eux ou l'une d'entre eux soit mis en examen, par exemple, lorsqu'ils ont tué quelqu'un, ça, c'est tout à fait historique. C'est-à-dire que dès qu'un policier tue, il va y avoir une espèce de bloc qui se met en place pour défendre l'agent qui a tiré et tué. Ça, c'est tout à fait classique avec des manifestations des syndicats de police. Par exemple, il y a des bavures extrêmement célèbres dans les années 70 où il va y avoir même des comités de défense qui vont soutenir des brigadiers, des CRS, etc. pour ne absolument pas qu'ils soient mis en cause. Et l'un des grands combats des syndicats les plus à droite de la police, mais aussi de certains élus de droite et d'extrême droite, c'est pour qu'il y ait pour la police une présomption de légitime défense. C'est quoi la présomption de légitime défense ? C'est de dire, ce n'est plus, c'est à la famille de prouver qu'il n'y avait pas légitime défense. Ce qui incombe, ce qui est donc extrêmement difficile à faire, c'est extrêmement difficile à faire, et donc ça met encore plus de pression sur la famille de la victime pour obtenir justice. Mais moi, à mon avis, ce que voudraient les policiers, c'est pas une présomption de légitime défense, c'est une légitime défense totale, c'est-à-dire un chèque en blanc total.
Mais non pas un chèque en gris, comme disait tout à l'heure.
C'est-à-dire, parce que la présomption de légitime défense supposera toujours qu'il y a un juge, et ça c'est intolérable pour la plupart des policiers et des syndicats de police.
Je ne serai pas aussi radical peut-être que vous, mais je reprendrai quand même le terme que vous avez employé tout à l'heure, le terme d'excité. Parce que concernant le FN, je pense quand même que le discours du FN excite la police. Hein, et que c'est un discours qui vise à l'exciter parce qu'il va exactement dire...
Non, je vais vous arrêter deux secondes, Hélène Leyer, c'est que c'est le discours du FN, mais on voit que c'est un discours qui s'est répandu. Je citais tout à l'heure Manuel Valls, c'était quand même pas un premier ministre FN. On voit le discours qu'a pu tenir Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, le discours que tiennent certains des députés, les Républicains en charge de ces questions-là, Éric Ciotti ou d'autres, ou Jérôme Larrivé par exemple. C'est vrai que ce sont quand même des discours qui se sont grandement radicalisés, si vous me passez cette expression.
Parce que le discours populiste, enfin Platon avait déjà bien montré ça dans Livre 8 de la République. Hein. Le discours populiste, en fait, il va se plaquer, alors là pour le coup, en miroir, sur ce que les autres attendent qu'ils disent. Bon, c'est une forme de manipulation. Hein. Et donc, évidemment, on va aller chercher les thèmes qui peuvent être sollicités. Certains policiers, moi je ne serais pas aussi radical que vous, quand même, tous les policiers. Non, je pense qu'il y a quand même une culture républicaine dans la police aujourd'hui qui est peut-être... minorisée, ou il y a une tentative de la minoriser, mais je pense qu'elle existe, ce serait bien pire, je crois, sinon. Mais en tout cas, du coup, qui excite un discours de l'affect, un discours de la pulsion, un discours de l'amour. Enfin, écoutez, il y a quand même des générations de policiers qui ont fait des choses très très dures. Si vous preniez, je ne sais pas, les policiers dans la police d'Algérie, je veux dire, c'était franchement pas rigolo non plus. Il n'y avait pas les violences sur les populations civiles, il n'y avait pas de discours de l'affect, on veut être aimé. Je veux dire, alors que quand même, ce n'était pas si simple non plus. Et il y a quelqu'un qui a bien montré, un sociologue des années 50, William Westley, un des pionniers, qui disait avant, les policiers cherchaient le respect, à se faire respecter. Aujourd'hui, ils cherchent à se faire aimer. C'est quand même extraordinairement différent et extrêmement dangereux. Parce que vous avez l'amour. Quand on ne nous le donne pas, eh ben, qu'est-ce qui se passe ? On est pris par la haine. Voilà, c'est tout.
Christian Monard.
Je pense, pour rebondir à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a quand même à souligner quelque chose qui fait partie de ce corporatisme policier, c'est la détestation des juges. D'ailleurs, en cela, ils rejoignent une partie du personnel politique qui se défie, qui critique le pouvoir judiciaire. En France, on a quand même dans une république où pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire ont toujours fait mauvais ménage, avec d'ailleurs le pouvoir exécutif qui, en général, a la main sur le pouvoir judiciaire. Et il est intéressant de voir que, alors même que les policiers ont très largement la main sur les juges, parce que même si les juges sont indépendants, les policiers arrivent à faire passer en général ce qu'ils veulent. Les juges sont beaucoup moins sévères envers les policiers qu'envers les jeunes, par exemple, des quartiers. Ils vous expliquent d'ailleurs, les juges, quand il y a un policier qui est mis en cause, on a tous les collègues qui viennent habillés en uniforme pour faire une démonstration de force. On a, quand un procureur poursuit un policier, on a des manifestations de policiers devant les tribunaux. Il faut voir quand même qu'il y a une pression des policiers sur les juges. Alors même qu'il y a ça, on voit des policiers qui exigent toujours plus de droits et qui en obtiennent d'ailleurs, puisque tous les textes de loi depuis novembre 2001, je dis 2001 et pas après, donnent de plus en plus de pouvoir aux policiers, leur donnent de plus en plus la main sur les juges, au moins les magistrats du parquet. Mais malgré tout, ils ont une espèce de détestation, un mépris pour le juge. Et c'est assez intéressant, puisqu'on parle des anciens, il y a Dominique Monjardet, le grand sociologue qui a lancé tous ses travaux sur la police. Trouver à chaque fois très ironique d'avoir des policiers qui disent de toute façon on peut contrôler les gens, sinon rien à se reprocher, il n'y a pas de problème à accepter d'être contrôlé, et eux-mêmes les policiers refusaient d'être contrôlés par les magistrats, refusaient d'être contrôlés par la population, d'être contrôlés par le défenseur des droits et contrôlés par leur IGPN, puisque dès qu'il y a une enquête, là aussi l'IGPN c'est un peu le traître, le vilain petit canard, vous en parliez tout à l'heure.
Et c'est quand même aussi une enquête en interne, c'est-à-dire que c'est pas un organisme indépendant.
Tout à fait. Mais même la directrice de l'IGPN qui part actuellement à la retraite a quand même, faut lui rendre hommage, essayer de faire avancer les choses, notamment en publiant ses chiffres, mais aussi en lançant des enquêtes. Bon, même en dénonçant les contrôles d'identité, les auditions auprès du défenseur des droits montrent que l'IGPN voulait qu'on réforme la loi sur les contrôles d'identité. Bon, ça n'a pas été suivi par le politique, c'est quand même intéressant de toute cette réflexion. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une espèce d'alliance tacite entre le politique qui signe ce chèque en gris aux policiers et politique qui est en retour très influencé par les positions que prennent les syndicats de policiers, il ne faut pas les vexer, il faut en prendre soin, etc., qui amène à une espèce de non-contrôle de la police, mais qui n'aide pas les policiers à définir leur mission.
Tout à fait.
Vanessa Codaccioni, peut-être pour terminer, puisque vous les avez évoquées tout à l'heure, ces lois de 2016 et de 2017, qui sont en lien direct avec ce que vient de dire Christian Moana, qui étaient des lois sur la question de la légitime défense, de l'usage des armes à feu, et on a vu que c'est quelque chose qui s'est, j'allais dire, libéralisé, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, qui est moins encadré aujourd'hui que ça n'a pu l'être par le passé.
Alors, c'est des législations qui sont attendues au moins depuis les années 80 par certains syndicats et qui sont réclamées par des élus UMP puis républicains pour justement une extension de la légitime défense, une facilitation de l'usage des armes par la police. Et ça s'est débloqué avec les attentats. Parce que jusqu'alors, quelqu'un comme Charles Pasqua, qu'on ne peut pas suspecter de ne pas se solidariser dès qu'il y a une bavure policière, au contraire, était contre l'extension de la légitime défense policière en disant c'est trop dangereux. Alors pour que Charles Pasqua dise ça, Nicolas Sarkozy disait aussi ça. Donc ça s'est complètement débloqué et c'est à mon avis pas un hasard si on a constaté ces derniers mois une augmentation considérable du nombre de tirs policiers, du nombre d'usages des armes par la police, parce que ça ne donne pas un chèque en blanc, mais ça donne une légitimité, ça donne quelque chose de symbolique qui permet de dire vous pouvez plus facilement utiliser leurs armes. Et concrètement, on a les chiffres. Je crois qu'il y a une augmentation de je ne sais plus combien.
58%, en tout cas. C'est... Alors, il faut des chiffres à prendre avec une pincette parce que c'est des statistiques récentes et donc il y a une remontée du terrain qui peut être plus importante aujourd'hui que par le passé. Mais malgré tout, ça a conduit l'IGPN, encore une fois, à alerter sur cette situation. Voilà, une utilisation relève 394 utilisations, j'ai les chiffres là, de l'arme à feu en 2017. 18 morts. Il y en a 15 il y a aussi 15 morts suite à des interventions et un mort par flashbug, Christian Moana, pour terminer sur cette question finalement par laquelle on a presque commencé, qui est celle de l'utilisation de la violence par arme à feu, mais, de la violence primaire, j'allais dire.
Mais ce qui est clair, et pour prolonger ce qui a été dit, c'est qu'on voit bien que contrairement à ce que croient ceux parmi les policiers qui réclament plus d'armes, et même l'armement, enfin le fait, toute l'histoire autour de l'arme, s'il faut la ramener chez soi, etc., mériterait une émission à elle seule. Bref, on voit bien que à chaque fois qu'on donne plus de pouvoir aux policiers, mais sans leur donner un sens clair à leur mission, pourquoi ils sont là, c'est quoi, on mélange terrorisme, vol à l'arraché, enfin, quand on regarde les textes de loi, on est dans du mélange. On dit aux policiers, le petit délinquant, c'est la même chose que le terroriste, etc. Finalement, ils se retrouvent avec beaucoup de pouvoir, avec toujours le risque, s'ils en abusent, de se retrouver un jour devant un tribunal, parce qu'il y a quand même des institutions qui continuent à exercer leur poids. Et donc, des policiers aussi qui vivent ce malaise, parce que plus on va leur donner de pouvoir et moins on va leur donner des directions, plus ils vont se retrouver avec tous ces attributs un peu en s'en mêlant les pinceaux dedans.
Et un dernier mot, Vanessa Codaccioni.
Oui, je voulais juste dire que ce phénomène n'est pas du tout propre à la France, qu'on retrouve ça dans les pays européens qui luttent contre le terrorisme. Par exemple, en Angleterre, il y a eu une méthode qu'on appelle la méthode du shooting to kill, c'est-à-dire il faut tuer les terroristes dans la tête et que quelques semaines plus tard, après cette doctrine, il y a un électricien de 27 ans qui a été pris pour un terroriste et qui a été tué d'une balle de cette balle dans la tête.
Et on ne citera pas l'exemple américain qui est évidemment archétypal dans ce genre-là. Voilà, il y a plus de 1000 morts par an d'effets de la police aux États-Unis. C'est à peu près les chiffres qu'on a. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. On en retiendra que c'est finalement d'un côté l'impunité et de l'autre le manque de directives politiques qui peuvent expliquer aujourd'hui l'augmentation je ne sais pas si on peut parler d'augmentation, mais en tout cas qui est l'encadrement de la violence policière. Merci Vanessa Codaccioni, Hélène Leuillet et Christian Moana d'avoir participé à ce grain à moudre d'été. Le grain à moudre d'été, c'est Laïla Saïdi, Camille Ferré, Céline Leclerc, Marine Lerouge et Imen Mélaz. À la réalisation ce soir, c'était Anne de Pelchin. À la prise de son, Emmanuel Morse d'Incan.